Je ne finirai pas si je voulais décrire la millième partie des événements singuliers qui m'arrivent lorsque je voyage près de ma bibliothèque. Les voyages de Cook et les observations de ses compagnons de voyage, les docteurs Banks et Solander, ne sont rien en comparaison de mes aventures dans ce seul district. Aussi, je crois que j'y passerai ma vie dans une espèce de ravissement, sans le buste dont j'ai parlé, sur lequel mes yeux et mes pensées finissent toujours par se fixer, quelle que soit la situation de mon âme. Et lorsqu'elle est trop violemment agitée ou qu'elle s'abandonne au découragement, je n'ai qu'à regarder ce buste pour la remettre dans son assiette naturelle. C'est le diapason avec lequel j'accorde l'assemblage variable et discord de sensations et de perceptions qui forme mon existence. Comme il est ressemblant, voilà bien les traits que la nature avait donnés aux plus vertueux des hommes. Ah, si le sculpteur avait pu rendre visible son âme excellente, son génie et son caractère. Mais qu'ai-je entrepris? Est-ce donc ici le lieu de faire son éloge? Est-ce aux hommes qui m'entourent que je l'adresse? Que leur importe? Je me contente de me prosterner devant ton image chérie, ô le meilleur des pères. Hélas, cette image est tout ce qui me reste de toi et de ma patrie. Tu as quitté la terre au moment où le crime allait l'envahir, et tels sont les maux dont il nous accable, que ta famille elle-même est contrainte de regarder aujourd'hui ta perte comme un bienfait. Que de maux tu fais éprouver une plus longue vie, ô mon père! Le sort de ta nombreuse famille est-il connu de toi dans le séjour du bonheur? Sais-tu que tes enfants sont exilés de cette patrie que tu as servie pendant 60 ans avec tant de zèle et d'intégrité? Sais-tu qu'il leur est défendu de visiter ta tombe? Mais la tyrannie n'a pu leur enlever la partie la plus précieuse de ton héritage, le souvenir de tes vertus et la force de tes exemples. Au milieu du torrent criminel qui entraînait leur patrie et leur fortune dans le gouffre, ils sont demeurés inaltérablement unis sur la ligne que tu leur avais tracée. Et lorsqu'ils pourront encore se prosterner sur ta cendre vénérée, elle les reconnaîtra toujours. Chapitre 39. J'ai promis un dialogue, je tiens parole. C'était le matin à l'aube du jour. Les rayons du soleil doraient à la fois le sommet du mont Viso et celui des montagnes les plus élevées de l'île qui est à nos antipodes. Et déjà, elle était éveillée, soit que son réveil prématuré fut l'effet des visions nocturnes qui la mettent souvent dans une agitation aussi fatigante qu'inutile, soit que le carnaval qui tirait alors vers sa fin fut la cause occulte de son réveil, ce temps de plaisir et de folie ayant une influence sur la machine humaine, comme les phases de la lune et de la conjonction de certaines planètes. Enfin, elle était éveillée et très éveillée lorsque mon âme se débarrassa elle-même des liens du sommeil. Depuis longtemps, celle-ci partageait confusément les sensations de l'autre, mais elle était encore embarrassée dans les crêpes de la nuit et du sommeil, et ces crêpes lui semblaient transformées en gaz, en linon, en toile des Indiens. Ma pauvre âme était donc comme empaquetée dans tout cet attirail. Et le dieu du sommeil, pour la retenir plus longtemps dans son empire, ajoutait à ses liens des tresses de cheveux blonds en désordre, de nœuds de rubans, des colliers de perles. C'était une pitié pour qu'il aurait vu se débattre dans ses filets. L'agitation de la plus noble partie de moi-même se communiquait à l'autre et celle-ci, à son tour, agissait puissamment sur mon âme. J'étais parvenu tout entier à un état difficile à décrire lorsqu'enfin mon âme, soit par sagacité, soit par hasard, trouva la manière de se libérer des gaz qui la suffoquaient. Je ne sais si elle rencontra une ouverture ou si elle s'avisa tout simplement de les relever, ce qui est plus naturel, Le fait est qu'elle trouva l'issue du labyrinthe. Les tresses de cheveux en désordre étaient toujours là, mais ce n'était plus un obstacle, c'était plutôt un moyen. Mon âme le saisit comme un homme qui se noie, s'accroche aux herbes du rivage. Mais le collier de perles se rompit dans l'action et les perles, se défilant, roulèrent sur le sofa et de là sur le parquet de Madame Aucastel. Car mon âme, par une bizarrerie dont il serait difficile de rendre raison, s'imaginait être chez cette dame. Un gros bouquet de violettes tomba par terre, et mon âme, s'éveillant alors, rentra chez elle, amenant à sa suite la raison et la réalité. Comme on l'imagine, elle désapprouva fortement tout ce qui s'était passé en son absence, et c'est ici que commence le dialogue qui fait l'objet de ce chapitre. Jamais mon âme n'avait été si mal reçue. Les reproches qu'elle s'avisa de faire dans ce moment critique achevèrent de brouiller le ménage. Ce fut une révolte, une insurrection formelle. « Quoi donc ?» dit mon âme. « C'est ainsi que, pendant mon absence, au lieu de réparer vos forces par un sommeil paisible et vous rendre par là plus propre à exécuter mes ordres, vous vous avisez insolemment, le terme était un peu fort, de vous livrer à des transports que ma volonté n'a pas sanctionnés. » Peu accoutumé à ce ton de hauteur, l'autre lui répartit en colère. « Il vous sied bien, madame, pour éloigner de la discussion toute idée de familiarité. Il vous sied bien de vous donner des airs de décence et de vertu. N'est-ce pas au écart de votre imagination et à vos extravagantes idées que je dois tout ce qui vous déplaît en moi? Pourquoi auriez-vous le droit de jouir sans moi dans les fréquents voyages que vous faites toute seule? Ai-je jamais désapprouvé vos séances dans l'Empyrée ou dans les Champs-Élysées, vos conversations avec les intelligences, vos spéculations profondes, un peu de raillerie, comme on voit, vos châteaux en Espagne, vos systèmes sublimes, et je n'aurai pas le droit, lorsque vous m'abandonnez ainsi, de jouir des bienfaits que m'accorde la nature et des plaisirs qu'elle me présente? » Mon âme, surprise de tant de vivacité et d'éloquence, ne savait que répondre. Pour arranger l'affaire, elle entreprit de couvrir du voile de la bienveillance les reproches qu'elle venait de se permettre, et afin de ne pas avoir l'air de faire les premiers pas vers la réconciliation, elle imagina de prendre aussi le ton de la cérémonie. « Madame, dit-elle à son tour avec une cordialité affectée, si le lecteur a trouvé ce mot déplacé lorsqu'il s'adressait à mon âme, que dira-t-il maintenant pour peu qu'il veuille se rappeler le sujet de la dispute? Mon âme ne sentit point l'extrême ridicule de cette façon de parler, tant la passion obscurcit l'intelligence. Madame, dit-elle donc, je vous assure que rien ne me ferait autant de plaisir que de vous voir jouir de tous les plaisirs dont notre nature est susceptible, quand même je ne les partagerai pas, si ces plaisirs ne vous étaient pas nuisibles et s'ils n'altéraient pas l'harmonie qui... » Ici mon âme fut interrompue vivement. « Non, non, je ne suis point la dupe de votre bienveillance supposée. Le séjour forcé que nous faisons ensemble dans cette chambre où nous voyageons, la blessure que j'ai reçue, qui a failli me détruire et qui saigne encore, tout cela n'est-il pas le fruit de votre orgueil extravagant et de vos préjugés barbares? Mon bien-être et mon existence même sont comptés pour rien lorsque vos passions vous entraînent, et vous prétendez vous intéresser à moi, et vos reproches viennent de votre amitié? » Mon âme vit qu'elle ne jouait pas le meilleur rôle dans cette occasion. Elle commençait d'ailleurs à s'apercevoir que la chaleur de la dispute en avait supprimé la cause, et profitant de la circonstance pour faire une diversion, « Faites du café !» dit-elle à Joannetti qui entrait dans la chambre. Le bruit des tasses attirant toute l'attention de l'insurgente dans l'instant, elle oublia tout le reste. C'est ainsi qu'en montrant un hochet aux enfants, on leur fait oublier les fruits malsains qu'ils demandent en trépignant. Je m'assoupis insensiblement pendant que l'eau chauffait. Je jouissais de ce plaisir charmant dont j'ai entretenu mes lecteurs et qu'on éprouve lorsqu'on se sent dormir. Le bruit agréable que faisait Joannetti en frappant de la cafetière sur le chenet retentissait sur mon cerveau et faisait vibrer toutes mes fibres sensitives comme l'ébranlement d'une corde de harpe fait résonner les octaves. Enfin, je vis comme une ombre devant moi. J'ouvris les yeux. C'était Joannetti. Ah, quel parfum! Quelle agréable surprise! Du café, de la crème, une pyramide de pain grillé. Bon lecteur, déjeune avec moi. Chapitre 40. Quel riche trésor de jouissance la bonne nature a livré aux hommes dont le cœur sait jouir, et quelle variété dans ces jouissances! Qui pourra compter leurs nuances innombrables dans les divers individus et dans les différents âges de la vie? Le souvenir confus de celle de mon enfance me font encore tressaillir. Essaierai-je de peindre celle qu'éprouve le jeune homme dont le cœur commence à brûler de tous les feux du sentiment? Dans cet âge heureux où l'on ignore encore jusqu'au nom de l'intérêt, de l'ambition, de la haine et de toutes les passions honteuses qui dégradent et tourmentent l'humanité, durant cet âge, hélas, trop court, le soleil brille d'un éclat qu'on ne lui retrouve plus dans le reste de la vie. L'air est plus pur, les fontaines sont plus limpides et plus fraîches, la nature a des aspects et les bocages ont des sentiers qu'on ne retrouve plus dans l'âge mûr. Dieu, quels parfums envoient les fleurs! Que ces fruits sont délicieux! De quelles couleurs se pare l'aurore! Toutes les femmes sont aimables et fidèles, tous les hommes sont bons, généreux et sensibles, partout on rencontre la cordialité, la franchise et le désintéressement. Il n'existe dans la nature que des fleurs, des vertus et des plaisirs. Le trouble de l'amour, l'espoir du bonheur, n'inondent-ils pas notre cœur de sensations aussi vives que variées? Le spectacle de la nature et sa contemplation dans l'ensemble et les détails ouvre devant la raison une immense carrière de jouissance. Bientôt, l'imagination, planant sur cet océan de plaisir, en augmente le nombre et l'intensité. Les sensations diverses s'unissent et se combinent pour en former de nouvelles. Les rêves de la gloire se mêlent aux palpitations de l'amour. La bienfaisance marche à côté de l'amour-propre qui lui tend la main. La mélancolie vient de temps en temps jeter sur nous son crêpe solennel et changer nos larmes en plaisir. Enfin, les perceptions de l'esprit, les sensations du cœur, les souvenirs même des sens sont pour l'homme des sources inépuisables de plaisir et de bonheur. Qu'on ne s'étonne donc point que le bruit que faisait Joannetti en frappant de la cafetière sur le chenet et l'aspect imprévu d'une tasse de crème ait fait sur moi une impression si vive et si agréable. Chapitre 41. Je mis aussitôt mon habit de voyage, après l'avoir examiné avec un œil de complaisance, et ce fut alors que je résolus de faire un chapitre ad hoc pour le faire connaître au lecteur. La forme et l'utilité de ces habits étant assez généralement connues, je traiterai plus particulièrement de leur influence sur l'esprit des voyageurs. Mon habit de voyage pour l'hiver est fait de l'étoffe la plus chaude et la plus moelleuse qu'il m'ait été possible de trouver. Il m'enveloppe entièrement de la tête aux pieds, et lorsque je suis dans mon fauteuil, les mains dans mes poches et la tête enfoncée dans le collet de l'habit, je ressemble à la statue de Vishnu, sans pieds et sans mains, qu'on voit dans les pagodes des Indes. On taxera, si l'on veut le préjuger, l'influence que j'attribue aux habits de voyage sur les voyageurs. Ce que je puis dire de certains à cet égard, c'est qu'il me paraîtrait aussi ridicule d'avancer d'un seul pas mon voyage autour de ma chambre, revêtu de mon uniforme et l'épée au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en robe de chambre. Lorsque je me vois ainsi habillé, suivant les rigueurs de la pragmatique, non seulement je ne serai pas à même de continuer mon voyage, mais je crois que je ne serai pas même en état de lire ce que j'en ai écrit jusqu'à présent, moins encore de le comprendre. Mais cela vous étonne-t-il ? Ne voit-on pas tous les jours des personnes qui se croient malades parce qu'elles ont la barbe longue ou parce que quelqu'un s'avise de leur trouver l'air malade et de le dire ? Les vêtements ont tant d'influence sur l'esprit des hommes qu'il est des valétudinaires qui se trouvent beaucoup mieux lorsqu'ils se voient en habit neuf et en perruque poudrée. On en voit qui trompent ainsi le public et eux-mêmes par une parure soutenue. Ils meurent un beau matin tout coiffés et leur mort frappe tout le monde. Enfin, dans la classe des hommes parmi lesquels je vis, combien n'en est-il pas qui, se voyant parés d'un uniforme, se croient fermement officiers jusqu'au moment où l'apparition inattendue de l'ennemi les détrompe. Il y a plus. S'il plaît au roi de permettre à l'un d'eux d'ajouter à son habit une certaine broderie, voilà qu'il se croit en général, et toute l'armée lui donne ce titre sans rire, tant l'influence de l'habit est forte sur l'imagination humaine. L'exemple suivant prouvera mieux encore ce que j'avance. On oubliait quelquefois de faire avertir plusieurs jours d'avance le comte de... qu'il devait monter la garde. Un caporal allait l'éveiller de grand matin, le jour même où il devait la monter, et lui annoncer cette triste nouvelle. Mais l'idée de se lever tout de suite, de mettre ses guêtres, et de sortir ainsi sans y avoir pensé la veille, le troublait tellement qu'il aimait mieux faire dire qu'il était malade et ne pas sortir de chez lui. Il mettait donc sa robe de chambre et renvoyait le perruquier. Cela lui donnait un air pâle, malade, qui alarmait sa femme et toute la famille. Il se trouvait réellement lui-même un peu défait ce jour-là. Il le disait à tout le monde, un peu pour soutenir la gageure, un peu aussi parce qu'il croyait l'être tout de bon. Insensiblement, l'influence de la robe de chambre opérait. Les bouillons, qu'il avait pris bon gré mal gré, lui causaient des nausées. Bientôt, les parents et amis envoyaient demander des nouvelles. Il n'en fallait pas tant pour le mettre décidément au lit. Le soir, le docteur Hanson lui trouvait le pouls concentré et ordonnait la saignée pour le lendemain. Si le service avait duré un mois de plus, c'en était fait du malade. Qui pourrait douter de l'influence des habits de voyage sur les voyageurs lorsqu'on réfléchira que le pauvre comte pensa plus d'une fois faire le voyage de l'autre monde pour avoir mis mal à propos sa robe de chambre dans celui-ci. Chapitre 42. J'étais assis près de mon feu après dîner, plié dans mon habit de voyage, et livré volontairement à toute son influence, en attendant l'heure du départ, lorsque les vapeurs de la digestion, se portant à mon cerveau, obstruèrent tellement les passages par lesquels les idées s'y rendaient en venant des sens que toute communication se trouva interceptée. Et de même que mes sens ne transmettaient plus aucune idée à mon cerveau, celui-ci, à son tour, ne pouvait plus envoyer le fluide électrique qui les anime et avec lequel l'ingénieux docteur Valli ressuscite des grenouilles mortes. On concevra facilement, après avoir lu ce préambule, pourquoi ma tête tomba sur ma poitrine, et comment les muscles du pouce et de l'index de la main droite, n'étant plus irrités par ce fluide, se relâchèrent au point qu'un volume des œuvres du marquis Caraccioli, que Je tenais serré entre ses deux doigts, m'échappa sans que je m'en aperçusse et tomba sur le foyer. Je venais de recevoir des visites, et ma conversation avec les personnes qui étaient sorties avait roulé sur la mort du fameux médecin Signa, qui venait de mourir et qui était universellement regretté. Il était savant, laborieux, bon physicien et fameux botaniste. Le mérite de cet homme habile occupait ma pensée. Et cependant, me disais-je, s'il m'était permis d'évoquer les âmes de tous ceux qu'il peut avoir fait passer dans l'autre monde, qui sait si sa réputation ne souffrirait pas quelques échecs. Je m'acheminai insensiblement à une dissertation sur la médecine et sur les progrès qu'elle a fait depuis Hippocrate. Je me demandais si les personnages fameux de l'Antiquité qui sont morts dans leur lit comme Périclès, Platon, la célèbre Aspasie et Hippocrate lui-même étaient morts comme des gens ordinaires, d'une fièvre putride, inflammatoire ou vermineuse, et si on les avait saignés et si on les avait bourrés de remèdes. Dire pourquoi je songeais à ces quatre personnages plutôt qu'à d'autres, c'est ce qui ne me serait pas possible. Qui peut rendre raison d'un songe? Tout ce que je puis dire, c'est que ce fut mon âme qui évoqua le docteur de Cosse, celui de Turin et le fameux homme d'État qui fit de si belles choses et de si grandes fautes. Mais pour son élégant ami, j'avoue humblement que ce fut l'autre qui lui fit signe. Cependant, quand j'y pense, je serais tenté d'éprouver un petit mouvement d'orgueil, car il est clair que dans ce songe, la balance en faveur de la raison était de 4-1. C'est beaucoup pour un militaire de mon âge. Quoi qu'il en soit, pendant que je me livrais à ces réflexions, mes yeux achevèrent de se fermer et je m'endormis profondément. Mais en fermant les yeux, l'image des personnages auxquels j'avais pensé demeura peinte sur cette toile fine qu'on appelle mémoire, et ces images, se mêlant dans mon cerveau avec l'idée de l'évocation des morts, je vis bientôt arriver à la file Hippocrate, Platon, Périclès, Aspasie et le docteur Signa avec sa perruque. Je les vis tous s'asseoir sur les sièges encore rangés autour du feu. Périclès seul resta debout pour lire les gazettes. « Si les découvertes dont vous me parlez étaient vraies, disait Hippocrate au docteur, et si elles avaient été aussi utiles à la médecine que vous le prétendez, j'aurais vu diminuer le nombre des hommes qui descendent chaque jour dans le royaume sombre et dont la liste commune, d'après les registres de Minos, que j'ai vérifié moi-même, est constamment la même qu'autrefois. » Le docteur Signa se tourna vers moi. « Vous avez sans doute ouï parler de ces découvertes, me dit-il. Vous connaissez celle d'Harvey sur la circulation du sang, celle de l'immortel Spallanzani sur la digestion, dont nous connaissons maintenant tout le mécanisme. » Et il fit un long détail de toutes les découvertes qui ont trait à la médecine et de la foule de remèdes qu'on doit à la chimie. Il fit enfin un discours académique en faveur de la médecine moderne. « Croirais-je, lui répondis-je alors, que ces grands hommes ignorent tout ce que vous venez de leur dire et que leur âme dégagée des entraves de la matière trouve quelque chose d'obscur dans toute la nature ? Quelle est votre erreur ? S'écria le proto-médecin du Péloponnèse. « Les mystères de la nature sont cachés aux morts comme aux vivants. Celui qui a créé et qui dirige tout, c'est lui seul le grand secret auquel les hommes s'efforcent en vain d'atteindre. Voilà ce que nous apprenons de certains sur les bords du Styx, et croyez-moi, ajouta-t-il en adressant la parole au docteur, dépouillez-vous de ce reste d'esprit de corps que vous avez apporté du séjour des mortels. Et puisque les travaux de 1000 générations et toutes les découvertes des hommes n'ont pu allonger d'un seul instant leur existence, puisque Caron passe chaque jour dans sa barque une inégale quantité d'ombre, ne nous fatiguons plus à défendre un art qui, chez les morts où nous sommes, ne serait même pas utile aux médecins. Ainsi parla le fameux Hippocrate, à mon grand étonnement. Le docteur Signa sourit, et comme les esprits ne sauraient se refuser à l'évidence ni taire la vérité, non seulement il fut de l'avis d'Hippocrate, mais il avoua même, en rougissant à la manière des intelligences, qui s'en était toujours douté. Périclès, qui s'était approché de la fenêtre, fit un gros soupir dont je devinais la cause. Il lisait un numéro du Moniteur qui annonçait la décadence des arts et des sciences. Il voyait des savants illustres quitter leurs sublimes spéculations pour inventer de nouveaux crimes. Et il frémissait d'entendre une horde de cannibales se comparer aux héros de la généreuse Grèce en faisant périr sur l'échafaud, sans honte et sans remords, des vieillards vénérables, des femmes, des enfants, et commettant de sang-froid les crimes les plus atroces et les plus inutiles. Platon, qui avait écouté sans rien dire notre conversation, la voyant tout à coup terminée d'une manière inattendue, prit la parole à son tour. « Je conçois, nous dit-il, comment les découvertes qu'ont faites vos grands hommes dans toutes les branches de la physique sont inutiles à la médecine qui ne pourra jamais changer le cours de la nature qu'aux dépens de la vie des hommes. Mais il n'en sera pas de même, sans doute, des recherches qu'on a faites sur la politique. Les découvertes de Locke sur la nature de l'esprit humain, l'invention de l'imprimerie, les observations accumulées tirées de l'histoire, tant de livres profonds qui ont répandu la science jusque parmi le peuple, tant de merveilles enfin auront sans doute contribué à rendre les hommes meilleurs et cette république heureuse et sage que j'avais imaginée et que le siècle dans lequel je vivais m'avait fait regarder comme un songe impraticable, existe sans doute aujourd'hui dans le monde. » À cette demande, l'honnête docteur baissa les yeux et ne répondit que par des larmes. Puis, comme il les essuyait avec son mouchoir, il fit involontairement tourner sa perruque de manière qu'une partie de son visage en fût cachée. « Dieux immortels ! » dit Aspasie en poussant un cri perçant. « Quelle étrange figure ! Est-ce donc une découverte de vos grands hommes qui vous a fait imaginer de vous coiffer ainsi avec le crâne d'un autre ?» Aspasie, que les dissertations des philosophes faisaient bâiller, s'était emparé d'un journal des modes qui était sur la cheminée et qu'elle feuilletait depuis quelque temps lorsque la perruque du médecin lui fit faire cette exclamation. Et comme le siège étroit et chancelant sur lequel elle était assise était fort incommode pour elle, elle avait placé sans façon ses deux jambes nues ornées de bandelettes sur la chaise de paille qui se trouvait entre elle et moi et s'appuyait du coude sur une des larges épaules de Platon. « Ce n'est pas un crâne !» lui répondit le docteur en prenant sa perruque et la jetant au feu. « C'est une perruque, mademoiselle !» Et je ne sais pourquoi je n'ai pas jeté cet ornement ridicule dans les flammes du Tartare lorsque j'arrivais parmi vous, mais les ridicules et les préjugés sont si fort inhérents à notre misérable nature qu'ils nous suivent encore quelque temps au-delà du tombeau. Je prenais un plaisir singulier à voir le docteur abjurer ainsi tout à la fois sa médecine et sa perruque. « Je vous assure, lui dit Aspasie, que la plupart des coiffures qui sont représentées dans le cahier que je feuillette mériteraient le même sort que la vôtre tant elles sont extravagantes. » La belle Athénienne s'amusait extrêmement à parcourir ces estampes et s'étonnait avec raison de la variété de la bizarrerie des ajustements modernes. Une figure entre autres la frappa, c'était celle d'une jeune dame, représentée avec une coiffure des plus élégantes, et qu'Aspasie trouva seulement un peu trop haute. Mais la pièce de gaz qui couvrait la gorge était d'une ampleur si extraordinaire qu'à peine apercevait-on la moitié du visage. Et Aspasie, ne sachant pas que ces formes prodigieuses n'étaient que l'ouvrage de l'amidon, ne put s'empêcher de témoigner un étonnement qui aurait redoublé, en sens inverse, si la gaze eût été transparente. « Mais apprenez-nous, dit-elle, pourquoi les femmes d'aujourd'hui semblent plutôt avoir des habillements pour se cacher que pour se vêtir. À peine laissent-elles apercevoir leur visage, auquel seul on peut reconnaître leur sexe, tant les formes de leur corps sont défigurées par les plis bizarres des étoffes. De toutes les figures qui sont représentées dans ces feuilles, aucune ne laisse à découvert la gorge, les bras et les jambes. Comment vos jeunes guerriers n'ont-ils pas tenté de détruire de semblables costumes ? Apparemment, ajouta-t-elle, la vertu des femmes d'aujourd'hui, qui se montrent dans tous leurs habillements, surpasse de beaucoup celle de mes contemporaines. En finissant ces mots, Aspasie me regardait et semblait me demander une réponse. Je feignis de ne pas m'en apercevoir, et pour me donner un air de distinction, je poussai sur la braise avec des pincettes les restes de la perruque du docteur qui avait échappé à l'incendie. M'apercevant ensuite qu'une des bandelettes qui serrait le brodequin d'Aspasie était dénouée, « Permettez, lui dis-je, charmante personne. » Et en parlant ainsi, je me baissai vivement, portant les mains vers la chaise où je croyais voir ses deux jambes qui firent jadis extravaguer de grands philosophes. Je suis persuadé que dans ce moment, je touchais au véritable somnambulisme, car le mouvement dont je parle fut très réel. Mais Rosine, qui reposait en effet sur la chaise, prit ce mouvement pour elle, et sautant légèrement dans mes bras, elle replongea dans les enfers les ombres fameuses évoquées par mon habit de voyage. Charmant pays de l'imagination! Toi que l'être bienfaisant par excellence a livré aux hommes pour les consoler de la réalité, il faut que je te quitte. C'est aujourd'hui que certaines personnes dont je dépends prétendent me rendre ma liberté. Comme s'ils me l'avaient enlevée, comme s'il était en leur pouvoir de me la ravir un seul instant et de m'empêcher de parcourir à mon gré le vaste espace toujours ouvert devant moi. Ils m'ont défendu de parcourir une ville, un point, mais ils m'ont laissé l'univers entier, l'immensité et l'éternité sont à mes ordres. C'est aujourd'hui donc que je suis libre, ou plutôt que je vais rentrer dans les fers. Le joug des affaires va de nouveau peser sur moi. Je ne ferai plus un pas qui ne soit mesuré par la bienséance et le devoir. Heureuse encore, si quelque déesse capricieuse ne me fait pas oublier l'un et l'autre, et si j'échappe à cette nouvelle et dangereuse captivité. Et que ne me laissait-on achever mon ouvrage? Était-ce donc pour me punir qu'on m'avait relégué dans ma chambre, dans cette contrée délicieuse qui renferme tous les biens et toutes les richesses du monde? Autant voudrait exiler une souris dans un grenier. Cependant, jamais je ne me suis aperçu plus clairement que je suis double. Pendant que je regrette mes jouissances imaginaires, je me sens consolé par une force, une puissance secrète m'entraîne. Elle me dit que j'ai besoin de l'air du ciel et que la solitude ressemble à la mort. Me voilà paré. Ma porte s'ouvre, j'erre sous les spacieux portiques de la rue du Pot, 1000 fantômes agréables voltigent devant mes yeux. Oui, voilà bien cet hôtel, cette porte, cet escalier. Je tressaille d'avance. C'est ainsi qu'on éprouve un avant-goût acide. Lorsqu'on coupe un citron pour le manger. Oh, ma bête, ma pauvre bête, prends garde à toi.